Rendez-vous culture des bibliothèques de Compiègne.
Bonjour à tous et à toutes, nous sommes très heureuses de vous retrouver pour cette émission, Amy, Jessie et moi-même. Une émission qui va vous embarquer dans un voyage à travers les mots, les mémoires et les émotions. Une sélection d'œuvres qui frappe fort, remue et éclaire. On va croiser des figures féminines puissantes, des familles en quête de sens, une ado en chute libre, des voix qui résonnent longtemps après la dernière page, et même Jane Austen, mais pas comme vous l'imaginez. Accrochez-vous, voici nos coups de cœur de la rentrée, vibrants, percutants, inoubliables, au programme. Deux romans de la rentrée littéraire qu'on a particulièrement aimés, Finistère d'Anne Berest et La nuit au cœur de Natacha Apana. Ils ne font pas partie des livres acclamés en cette période de rentrée littéraire, mais il serait bien dommage qu'ils passent inaperçus. The Nightingale de Christine Anna, ou Le chant du rossignol en français, et Tsitsi de Claire Castillon. Et un très joli film de Laura Piani, Jane Austen a gâché ma vie. Une BD de Titiou Lecoq, Les femmes qui ont fait l'histoire. Et notre coup de cœur musical du mois sera pour Nous étions une armée avec le titre Heureux comme un roi. Direction la Bretagne avec notre première recommandation littéraire. Alors, je vais vous parler du Finistère d'Anne Berest. Après le succès de la carte postale où Anne Berest retraçait l'histoire poignante de sa famille maternelle juive askénaze, marquée par la déportation de sa grand-mère, son père lui lance une question en forme de reproche. Et nous alors, on ne mérite pas un livre ? C'est cette interpellation qui donne naissance à Finistère, son septième ouvrage, consacré cette fois à sa branche paternelle, bretonne. Comme dans chacun de ses livres, Anne Berest mêle avec finesse, érudition et intimité, grande histoire et mémoire familiale. Elle mène une enquête, documentaire, dense, croisée avec les souvenirs et les silences de son père, sur quatre générations. Ce livre est né au moment où son père tombe malade et où elle réalise qu'elle connaît peu de choses de lui. Ce père tant aimé, chercheur en mathématiques, taiseux, secret, incapable d'exprimer ses émotions, qu'elle tente enfin de comprendre. Il ne lira jamais ce texte, emporté récemment par un cancer. Et c'est sur les conseils d'une amie qu'elle a remonté le fil de son arbre généalogique jusqu'à Saint-Paul-de-Léon dans le Finistère. Elle explore des carnets où elle découvre l'histoire de son arrière-grand-père, catholique de gauche, qui avait créé une des premières coopératives agricoles de pommes de terre. Son grand-père, professeur agrégé de lettres, puis maire de Brest, il avait d'ailleurs pour slogan politique « Bérest pour Brest ». Puis vient son père, dont elle découvre la jeunesse trotskiste, l'engagement clandestin dans une organisation révolutionnaire et sa rencontre avec sa femme, militante féministe et chercheuse comme lui. J'ai adoré me plonger dans ces quatre destinées, l'arrière-grand-père, le grand-père, le père et l'autrice, qui nous entraînent dans un siècle d'histoire. Finistère est un hymne vibrant à l'identité bretonne, mais aussi une réflexion profonde sur la transmission. Que nous lèguent nos ancêtres ? Comment leurs choix, leur silence, leur combat nous façonnent-ils ? Et surtout, peut-on s'affranchir de cet héritage invisible ? Anne Berest explore la transgénéalogie avec une rare sensibilité, interrogeant les liens invisibles qui nous relient à ceux qui nous ont précédés. Son écriture est fine, dépouillée, expressive, et elle est le fruit d'une longue expérience puisqu'elle a commencé sa carrière en cofondant une maison d'édition spécialisée dans les biographies privées. Et c'est cette maîtrise du récit intime qui lui a permis de transformer une histoire vraie en roman intensément romanesque. On se passionne pour cette saga familiale qui se lit aussi comme une chronique de l'histoire contemporaine. Finistère est pour moi l'un des plus beaux romans de cette rentrée, captivant, profond et vibrant d'humanité.
Alors, à l'occasion des 250 ans de l'anniversaire de naissance de Jane Austen, et sur les quelques notes de la chanson « September Fields » de Frazee Ford, une artiste canadienne, donc vous allez pouvoir écouter juste après, je vais vous raconter l'histoire d'Agathe Robinson, incarnée par Camille Rutherford, une jeune femme qui travaille à la librairie Shakespeare & Company à Paris, dans le film donc « Jane Austen a gâché ma vie » de Laura Piani. Il s'agit donc d'ailleurs, pour la petite anecdote, de la librairie Shakespeare & Co, la réalisatrice a elle-même exercé et qui sert de décor au film. Et c'est une écrivaine effectivement, qui est en devenir, donc elle rêve de terminer ses manuscrits, mais elle manque de confiance en elle, passant ses soirées à s'imaginer dans les univers de Jane Austen. Un beau jour, grâce à une initiative de son ami Félix, elle est invitée à une résidence d'auteur en Angleterre, un coup de pouce inespéré pour relancer sa carrière. Alors je tiens à préciser que la Jane Austen Residency du film n'existe malheureusement pas dans la réalité. Seule existe Jane Austen's House, qui est dans le Hampshire, et la Jane Austen Society. Alors sur place, une rencontre inattendue a lieu avec un certain Oliver, le fils des propriétaires, assez prétentieux au départ d'ailleurs avec notre Jane Austen à la française. Et malgré un départ aux allures d'aversion mutuelle, une connexion commence à se tisser entre eux, ponctuée de balades et de confidences, tandis qu'Agathe jongle entre un Félix omniprésent et ses propres doutes d'autrice. Finalement, le séjour à la résidence éveille en elle le besoin d'écrire. Revenue en France, Agathe trouve l'inspiration, achève enfin son roman et le soumet à une maison d'édition, le tout après avoir suivi bien sûr les conseils précieux d'Oliver. Une belle évolution pour cette âme sensible. Plongeant ses racines dans la tradition des comédies romantiques classiques à l'anglaise, ce film revendique avec aisance des influences qui parlent aux amateurs du genre. On y retrouve l'esprit subtil et le charme intemporel d'auteurs comme Mike Leigh, James Ivory ou encore les maîtres incontestés Ernst Lubitsch et Billy Wilder. Cette filiation est loin d'être une simple imitation. Elle se manifeste par une sensibilité particulière et un hommage sincère à ce cinéma qui sait si bien mêler humour, tendresse et émotion. La direction artistique joue un rôle crucial dans la réussite de cette fresque cinématographique. La manière dont la lumière est utilisée ainsi que le choix du formatscope confère au film une dimension visuelle unique, apportant une profondeur et une élégance rare à un genre parfois taxé de légèreté. Mais c'est un délice pour les yeux qui renforce considérablement l'atmosphère. Et vous pouvez retrouver ce film actuellement donc, sur Arte VOD en partenariat avec la médiathèque départementale de l'Oise. So tight.
Voilà, c'était la musique issue de la bande originale du film Jane Austen a gâché ma vie. Maintenant, je vais vous parler d'un autre coup de cœur de la rentrée littéraire. C'est La nuit au cœur de Natasha Apana. Alors, il est en lice pour plusieurs prix littéraires de cette rentrée, dont le Goncourt. Et depuis Tropique de la violence, l'autrice mauricienne trace une œuvre sincère, poignante, nourrie de son vécu. Comme dans La mémoire délavée, son précédent ouvrage, elle ne propose pas un roman au sens classique, mais une enquête intime. Le sujet est grave, c'est la violence conjugale, une domination insidieuse qui a servi les corps et tue littéralement. L'écrivaine a mené une enquête minutieuse qui lui permet de retracer très précisément le destin de deux femmes qui ont existé et ont succombé à la violence de leur compagnon, sa cousine Emma et Shahinez Daoud, brûlée vive en 2020 par son conjoint alors qu'elle avait demandé le divorce. Ce drame avait profondément choqué la France. À ces deux récits tragiques, elle ajoute celui d'une troisième victime, elle-même. 20 ans plus tôt, Natasha Apana a survécu à l'enfer de l'oppression. Et par ce travail de mémoire, elle affronte le souvenir de ses 6 années d'emprise, une épreuve indélébile qui lui permet de ressentir avec une acuité douloureuse ce qu'ont vécu Emma et Shahinez. C'est en apprenant la mort de sa cousine, qui a été écrasée par la voiture de son mari, qu'elle éprouve le besoin impérieux d'écrire, de briser le silence et de rendre visibles ces femmes effacées. 3 situations de toxicité conjugale, 3 enfermements, Apana dissèque brillamment les mécanismes de manipulation, les pièges de la dépendance affective qui aspirent ces 3 femmes dans l'emprisonnement imposé par leur bourreau et elle raconte avec une force incroyable l'engrenage mis en place. Elle montre combien il est difficile pour une femme de s'extraire de cette emprise. Il ne suffit pas de dire « elle n'a qu'à partir » ou « elle devrait porter plainte ». Le processus est bien plus pernicieux. Ce que l'autrice met en lumière, c'est la solitude de ces femmes face à l'asservissement. Et en parallèle, il est aussi question du sens que revêt l'écriture. Écrire pour Natasha Apana, c'est redonner une voix à celles qu'on a réduites au silence. C'est refuser de les réduire à leur drame, leur redonner une vie sans occulter leurs derniers instants. J'ai été impressionnée par la délicatesse de son écriture. Chaque mot est pesé, chaque phrase avance avec prudence, dans un mouvement méditatif, réflexif. C'est un texte nécessaire, d'une force rare, d'une justesse implacable et bouleversante. Un livre qu'on n'oublie pas. On va faire une petite pause musicale maintenant, avec mon coup de cœur musique de cette rentrée, c'est « Nous étions une armée ». C'est un duo à l'énergie post-rock, formé par Léo Niveau à l'écriture, la composition, la guitare et au chant, et Rémi Le Taluandier à la guitare. Des guitares qui s'élèvent comme des vagues, les textures électroniques qui mêlent aux émotions brutes, et les voix résonnent comme des échos d'un monde en lutte. Leur univers est à la fois puissant et sensible, traversé par une tension poétique intense. Écoutons le single de ce premier album, « Heureux comme un roi ».
Je vivrai seul et heureux comme un roi, dans une petite maison en pierre à l'entrée d'une forêt. J'écrirai des chansons que personne n'entendra, je relirai les lettres que tu m'avais laissées. Je vivrai seul et heureux comme un roi, dans une petite maison en pierre à l'entrée d'une forêt. J'écrirai des chansons que personne n'entendra, je relirai les lettres que tu m'avais laissées. Que ces détours me mèneront quelque part. Elle dit comme toutes les voix qu'il ne faut rien lâcher, que même ses larmes valaient la peine, que tout finira bien pour moi, que tout finira bien. Je vivrai seul et heureux comme un roi, dans une petite maison en pierre à l'entrée d'une forêt. J'écrirai des chansons que personne n'entendra, je relirai les lettres que tu m'avais laissées. Je vivrai seul et heureux comme un roi, de vivre comme un autre. J'ai essayé de rire, j'ai essayé d'aimer, j'ai essayé de croire que tout finira bien. Oui, tout finira bien. Je vivrai seul et heureux comme un roi. Dans une petite maison en pierre à l'entrée d'une forêt, j'écrirai des chansons que personne n'entendra. Je relirai les lettres que tu m'avais laissées. Je vivrai seul et heureux comme un roi. Dans une petite maison en pierre à l'entrée d'une forêt, j'écrirai des chansons que personne n'entendra. Je relirai les lettres que tu m'avais laissées. Je vivrai seul et heureux comme un roi. Dans une petite maison en pierre à l'entrée d'une forêt, j'écrirai des chansons que personne n'entendra. Je relirai les lettres que tu m'avais laissées. Je vivrai seul et heureux comme un roi. Seul et heureux comme un roi.
Alors, je vais vous présenter de mon côté The Nightingale de Christine Anna, ou Le chant du rossignol en français. Alors, Christine Anna est une écrivaine américaine dont les livres se concentrent toujours sur les femmes et leur lutte dans différentes sphères de la société. Ce roman est disponible en anglais à la bibliothèque Montrichon ainsi qu'en français. Dans la même bibliothèque, et a été publié en février 2015, mais sera adapté en film en février 2027, réalisé par Mélanie Laurent et avec à l'affiche les sœurs Dakota et Elle Fanning. En 1939, alors que la France bascule dans l'horreur de la guerre, le quotidien de Vianne Mauriac bascule dans le village de Carriveau. Restée seule avec sa fille lorsque son mari est parti au front, elle voit sa maison réquisitionnée par les forces nazies. Et face à l'imminence de l'invasion et à la présence d'un officier allemand sous son toit, Vianne est confrontée à une décision déchirante. Privilégier la protection de sa fille ou la résistance. Son choix, empreint d'un courage silencieux, résonne comme un acte de survie et d'amour filial. Parallèlement, sa jeune sœur Isabelle, âme rebelle et pleine de fougue, quitte la relative sécurité de Carriveau pour Paris. Témoin direct de l'entrée des troupes ennemies, elle ne tarde pas à trouver sa voie dans la lutte clandestine. Sous le nom de code audacieux le Rossignol, Isabelle s'engage dans la résistance. Elle orchestre des passages périlleux d'aviateurs alliés vers la liberté, bravant les dangers avec une détermination sans faille. Ces deux sœurs au destin entremêlé incarnent la force et l'ingéniosité féminine face à l'oppression. Leurs parcours distincts, mais unis par la volonté de vivre et de résister, sont une puissante évocation de la résilience humaine, de l'amour inconditionnel et des idéaux qui peuvent subsister même dans les heures les plus sombres de l'histoire. Cette œuvre présente une dynamique familiale particulièrement attachante à travers le portrait de deux sœurs. Leurs parcours individuels sont dépeints avec une force remarquable. L'une affronte des épreuves qui suscitent l'admiration par leur ampleur, tandis que le cheminement des deux, ensemble, vibre d'une profonde émotion. Un élément particulièrement apprécié dans l'écriture est la subtilité avec laquelle les personnages sont conçus, échappant à toute simplification manichéenne. Et c'est justement cette absence de dichotomie absolue entre le bien et le mal qui confère une profondeur psychologique bienvenue, rendant les motivations et les actions d'autant plus crédibles et humaines. J'ai quand même noté que le récit, bien qu'il ne soit pas strictement ancré dans les faits réels, le cadre historique de la Seconde Guerre mondiale est fidèlement rendu. Cette reconstitution d'époque permet de rappeler le contexte de courage et d'abnégation dont ont fait preuve de nombreux hommes et femmes pour protéger leurs proches et libérer leur nation. La capacité à entremêler ces luttes personnelles avec la gravité de l'histoire mondiale, tout en explorant la complexité des caractères, constitue la véritable réussite de cette narration. Vraiment, ce livre, il était absolument épique. C'est un voyage à couper le souffle qui m'a captivée dès la première page, avec la force et la beauté de l'écriture. Et vraiment, c'est vraiment une histoire inoubliable que je vous recommande.
Merci, Amy. Alors moi, je vais vous parler encore d'un roman français de Claire Castillon, Tsitsi. À 16 ans, Hélène ne rêve que de sacs de luxe, de séjours dans des hôtels 5 étoiles et pourquoi pas de chirurgie esthétique. Sur Instagram, ses followers se comptent par centaines. Elle se grise de likes, s'affiche en bikini, fantasme une vie brillante et facile. Mais derrière les apparences, Hélène étouffe. Elle vit avec son père, qu'elle juge ringard, et la mère des jumeaux, une figure floue et distante. Elle rejette ce quotidien trop banal et contraignant. Alors elle s'invente une autre vie. Elle devient Tsitsi. Sous l'influence de Poppée, une amie plus âgée et expérimentée, Hélène s'inscrit sur un site de rencontre pour Sugar Daddies. L'idée, offrir sa compagnie à des hommes fortunés en échange d'argent. En théorie, pas de sexe. En pratique, tout est flou. Très vite, les rendez-vous tournent mal. Les hommes ne s'embarrassent pas de consentement. Hélène vacille, s'abîme, se perd. Claire Castillon nous plonge dans la tête de cette adolescente en dérive avec une justesse de ton saisissante. L'écriture est acérée, nerveuse, toujours percutante. L'héroïne est agaçante, on commence même par la détester presque. Menteuse, voleuse, arrogante et futile, obsédée par l'argent et le paraître. Mais peu à peu, le roman creuse une autre trame, plus profonde et bouleversante. On découvre les failles, les blessures. On comprend que derrière la provocation se cache une immense détresse. Titi est un roman coup de poing. Il explore les mécanismes de l'emprise, la naïveté bravage d'une adolescente qui croit maîtriser les règles d'un jeu cruel. Il interroge aussi le regard des adultes, souvent impuissants, parfois aveugles. Le père, malgré ses efforts, ne parvient pas à atteindre sa fille. Et la mère des jumeaux reste en retrait, comme absente. Le récit avance par touches, distille des indices, des souvenirs, des phrases anodines qui prennent tout leur sens à la relecture. Et puis il y a la chute, inattendue, terrible, qui éclaire tout le reste. Elle révèle l'ampleur du drame intime que vit Hélène. Ce roman nous rappelle qu'on ne peut jamais réduire une adolescente à ses actes ou à son apparence. Derrière chaque provocation, il y a peut-être un cri. Claire Castillon signe ici un texte court, mais d'une intensité rare, un portrait subtil et bouleversant d'une jeunesse en quête de sens, de reconnaissance, d'amour. Une lecture qu'on ne lâche pas, qui nous happe, nous ébranle et nous laisse les larmes aux yeux.
Le rendez-vous culture des bibliothèques de Compiègne.
Et maintenant, on va parler BD avec Jessie.
Eh oui, alors aujourd'hui, je vous propose de plonger dans un sujet qui mérite vraiment qu'on s'y arrête, la place des femmes dans l'histoire. Et surtout, pourquoi elles ont été souvent oubliées ou mises de côté dans les récits qu'on nous raconte. Le livre « Les grandes oubliées » de Titiou Lecoq, qui vient de sortir en bande dessinée, nous invite justement à réfléchir sur ce phénomène. Ce livre, qui a déjà touché plus de 200 000 lecteurs en version texte, la BD rend aussi le sujet très passionnant, encore plus vivant et accessible, notamment pour les jeunes et ceux qui découvrent le sujet. Alors, moi, c'est un sujet qui m'avait déjà très touchée. Et là, j'avoue qu'en bande dessinée, c'est un éclat absolument extraordinaire. Et puis, pour vos jeunes adultes, vos ados, c'est vraiment le moyen sympa de leur faire découvrir l'envers de l'histoire. Alors, pourquoi Lister oublie-t-elle les hommes, les femmes, pardon, je vois. Comme quoi, le lapsus est là. On pourrait croire que c'est simplement une question de hasard ou de manque d'information, mais ce n'est pas du tout le cas. Depuis très longtemps, les récits historiques ont été écrits principalement par des hommes et pour des hommes. Ces récits ont souvent mis en avant les figures masculines, rois, guerriers, inventeurs, tandis que les femmes, même lorsqu'elles sont des rôles importants, ont été effacées ou reléguées à des rôles secondaires. Ce livre met donc en lumière des centaines de ces grandes oubliées, des scientifiques, des militantes, des artistes, des exploratrices dont les contributions ont été capitales et qui ne figurent pas dans ces livres scolaires classiques, là ce qu'on nous enseigne. Grâce à cette œuvre, on comprend mieux que l'histoire n'est pas figée, mais qu'elle se construit en fonction de ceux qui la racontent. La nouvelle bande dessinée, avec ses images fortes et ses récits courts, donne une voix à ces femmes pour que leur histoire soit enfin racontée et connue de tous. C'est un outil formidable pour sensibiliser, apprendre autrement et surtout nous montrer que les femmes ont toujours fait partie de l'histoire. Pour approfondir ce sujet, justement, je vous recommande également un documentaire jeunesse qui s'appelle « Les femmes aussi ont fait l'histoire », qui est disponible à la bibliothèque Saint-Corneille, donc du coup en rayon jeunesse. Qui est également écrit par Titouan Lecoq. Magnifiquement illustré, ce livre est accessible à tous les âges, même s'il en rayon jeunesse, adulte, allez-y. Il y a une page par personnage féminin et on en apprend beaucoup. Alors évidemment, on s'attend à Simone Veil, Jeanne d'Arc, mais il y en a plein d'autres qui ont été oubliés. Donc ce livre est disponible pour tous les âges, même s'il en jeunesse, je vous le recommande, surtout pour vos jeunes ados. Et en parlant de BD, j'ai une excellente nouvelle pour les amateurs du genre. Dans le cadre du mois de la BD, en partenariat avec la médiathèque départementale de l'Oise, aussi connue MDO, nous accueillerons le samedi 4 octobre à la bibliothèque Saint-Corneille, Mathilde Domecq, autrice talentueuse de bandes dessinées telles que Paloa, Crusoe, Basile et Melba, ou encore Shaker Monster. Ce sera une rencontre exceptionnelle suivie d'une séance de dédicace. Une occasion unique de rencontrer une autrice passionnée et de découvrir son genre graphique. Alors, elle a fait des bandes dessinées jeunesse, ce que je vous ai dit, mais elle a fait aussi un peu de BD adulte. Donc c'est bien, c'est accessible à tous. Je vous le recommande.
Merci beaucoup, Jessie.
Merci.
Eh bien, on arrive déjà au terme de cette émission. Merci beaucoup, Amy et Jessie. Pour les prochaines animations proposées par la bibliothèque, il y a une exposition en ce moment visible dans le cloître de la bibliothèque Saint-Corneille jusqu'au 11 octobre autour de l'œuvre d'Arnaud Rabier, alias Noart.
C'est ça.
Un artiste plasticien et vidéaste qui puise son inspiration dans le graffiti, la création collective et l'énergie urbaine. Ses œuvres puissantes et sensibles partent de liens, de mémoire, de transformation.
Franchement, c'est génial. C'est à la fois du graffiti et de la peinture classique. C'est un gros mélange des deux. C'est passionnant. Et voilà, si vous passez sur le marché faire vos courses samedi matin, n'hésitez pas à y passer.
Oui, n'hésitez pas. Et samedi 11 octobre à 14h30, à la bibliothèque Saint-Corneille, les espaces Cyberbase proposent une conférence sur le cyberharcèlement. Et toujours le samedi 11 octobre à 17h, les Petits Socratiques proposent un café philo sur le thème langue maternelle, langue paternelle ou langue de bois, animé par Ataïa Kaoucha. Notre prochain apéro culture à la bibliothèque sera le samedi 4 octobre à 11h. Venez nombreux, on va parler de beaucoup de romans de la rentrée littéraire et de l'été. Et notre prochaine émission sur Graphite, le vendredi 17 octobre à 18h. Très bon week-end.